l'histoire universelle de Marseille. Voici en cet épisode une version sonore du livre d'Alesside Alumbrea sorti aux éditions Agone. Aujourd'hui, l'urbanisme et la désintégration de la ville.
T'es sûr de ne pas te prendre le yucca dans l'œil, il y a le pot qui a éclaté. La poussée de la vie au printemps fait que...
Ah ouais, effectivement. Waouh.
Et ouais, on a la vue en question, là. Tu vois, j'ai le ciné en bas.
Notre-Dame de la Garde en pleine face.
Et ouais.
Ça te rend un peu spirituel ?
Ah ben je suis très, très spirituel de toute façon. L'esprit me parle.
La canne-bière.
Bien. Alors. Urbanisme et désintégration urbaine. C'est donc quasiment des synonymes. Puisque l'urbanisme apparaît au milieu du 19e siècle. D'ailleurs, le néologisme urbanisme a été créé, pas par hasard, par un certain Ildefonso Cerdà, qui est un ingénieur civil, qui a été chargé par le gouvernement central espagnol de l'agrandissement de Barcelone. C'est lui, agrandissement qui a été imposé aux Barcelonais, qui préféraient notre tracé que le tracé orthogonal préconisé par Cerdà. Et dès le départ, d'ailleurs, dans les propositions de Cerdà, on trouve deux caractéristiques principales de l'urbanisme. Un côté à la fois plus ou moins un peu utopiste, qui sert un peu d'argument de vente. Ildefonso Cerdà avait pensé vraiment à améliorer la condition des gens par l'habitat, etc. Et en même temps, le côté stratégique, à savoir de prévoir des grands axes de circulation qui favorisent le passage des troupes et la circulation de la marchandise en même temps, mais surtout qui empêche les gens de s'approprier l'espace extérieur, quoi. Dès le départ, l'urbanisme applique une séparation très rigide entre l'espace public, qui est censé être à tout le monde et en réalité à personne, et l'espace privé du domicile. C'est une conception très bourgeoise de l'espace, quoi, qui triomphe au 19e siècle, qui triomphe en rupture avec toutes les traditions urbaines du millénaire. Donc, en France, peu après, on a les expériences de Haussmann à Paris. Bah, à Marseille, ça se traduit par la rue de la République, qui date de 1860, quoi, qui est une monstrueuse saignée dans les quartiers populaires de Marseille, et pas seulement dans le bâti, mais même dans le relief. Hein, on voit tout de suite qu'il y a une grande violence qui est faite, et aux traditions urbaines qui ne sont pas le fruit du hasard, qui sont le fruit d'une expérience séculaire, et à la configuration géographique des lieux, quoi. On taille dans la masse pour bâtir des immeubles casernes. Et disons que sur Marseille, après, bon, il y a toute une série d'épisodes de démolitions successives.
Juste pour reprendre un petit peu avant la construction de cette fameuse rue de la République, tu disais que c'était effectivement un peu un paradoxe dans cette ville, parce que la ville est plutôt faite de petites ruelles, de petits quartiers, plutôt que de grands axes à la base, naturellement, de par sa géographie ou le fait qu'il y ait des collines, tout ça.
Oui, bah, disons que la ville ancienne avait fonctionné, enfin c'était construite et reconstruite depuis des siècles, à la fois en épousant le relief. Et quand je dis il y a le relief du sol, mais aussi également par rapport au vent. Hein. Marseille, c'était quand même un peuple de marins, donc il tenait compte de la question du vent, pas seulement sur mer, même sur terre. Et évidemment, c'est une ville qui était bâtie de façon artisanale. Petit à petit, pas de grosses opérations. Les grosses opérations, ça commence vraiment avec la rue impériale, quoi. C'est-à-dire avec des grandes entreprises qui disposent de soutien bancaire extrêmement fort. C'est au moment où on applique le capitalisme à la construction de la ville elle-même, quoi. Ça commence à ce moment-là. Et ça commence d'entrer de façon extrêmement brutale, quoi, par destruction, par expulsion. Bon, alors, dans le cas précis de la rue de la République, on sait que ça a été un échec financier qui a refroidi un peu les enthousiasmes pour un moment. Mais bon, on voit que maintenant, tout est à nouveau remis en jeu grâce à des multinationales de l'immobilier. Enfin, grâce, à cause plutôt. Mais disons, on a quand même un certain nombre d'opérations de démolition hein, sur Marseille. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, quand même, entre les deux guerres, et puis bon, la plus célèbre, la plus tragique, celle de 1943. Et qui chaque fois éliminent des morceaux entiers de la vie ancienne du Marseille populaire et des quartiers qui sont loin d'être des quartiers désertés, qui sont extrêmement peuplés. Et ce, au moment même où il est né entre les deux guerres, là, tout ce discours, dont Le Corbusier sera le représentant le plus éminent, mais qui est un discours assez répandu parmi les architectes et les urbanistes, hein. Un discours extrêmement moderniste qui veut faire table rase du passé, quoi. La politique de la table rase, on détruit tout ce qui existait, on refait entièrement à zéro, et selon un principe qui est celui du zonage. Alors le principe, c'est de dire on va décomposer, c'est-à-dire donc c'est un mécanisme de la pensée abstraite, on décompose les fonctions de la ville en quatre. Alors que dans la réalité pratique et vivante de la ville, ces fonctions se combinaient, se juxtaposaient, voisinaient, s'articulaient, parfois se mélangeaient, et c'était ça qui faisait justement la ville, cette particularité, et qui faisait c'était aussi toute la culture urbaine. Donc quatre fonctions, hein, travailler, circuler, se reposer, et aussi les fonctions de l'échange, du commerce, etc. Et ces fonctions doivent être, selon les théories modernistes de l'époque, doivent être séparées dans l'espace, et articulées par la circulation automobile, par les rocades autoroutières. Et entre les deux guerres, c'est le moment où l'automobile prend son essor, et on prévoit plus ou moins, enfin on prévoit, c'est pas qu'on prévoit, c'est qu'on organise l'espace pour que l'automobile puisse devenir encore plus envahissant, encore plus incontournable et hégémonique. Et ça se poursuivra évidemment après-guerre. Alors évidemment, la Seconde Guerre mondiale, c'est une gigantesque opération d'urbanisme. On le voit, bombardement de Dresde, par exemple, sur les côtes françaises, toutes les villes portuaires de la Manche et de l'Atlantique. On sait comment ça a été reconstruit, le Havre, Brest, tout ça, en fait. Ça a été justement reconstruit sur c'est très bien. La table rase a été faite par les bombardements aériens. Le cas de Marseille est un peu particulier, parce que la table rase, enfin, en tout cas pour le Vieux-Port, ça a été fait par les dynamitages à ras du sol. C'est-à-dire pour une entreprise de démolition méthodique. Et donc ça a créé les conditions d'une reconstruction radicale. en même temps, il y a toujours cette vieille question qui revient, la question du logement, quoi. La question du logement qui est liée à la prolétarisation des gens, à l'arrivée des vagues d'immigration successives, soit des campagnes ou des montagnes environnantes, soit des autres régions de la Méditerranée. Et par exemple, c'est la propagation du bidonville, les gens qui s'entassent. Il suffit de parler avec les anciens ici à Marseille pour savoir que jusque dans les années 60, les gens s'entassaient à des familles de 7, 8 dans une pièce. Hein. Alors la question du logement, c'est clair, elle est posée, mais elle va être résolue par l'État français qui intervient de façon très dirigiste dans les processus de reconstruction d'après-guerre. Hein. Il y a tout un dispositif législatif pour partie hérité du régime de Vichy, d'ailleurs, soit dit en passant, qui donne plein pouvoir à l'État. Et évidemment, ils vont appliquer, l'État étant une machine militaire, par définition, ils vont appliquer justement ces théories du zonage qui permettent un quadrillage de l'espace, un contrôle de l'espace, des mouvements de population. Alors pour Marseille, il y a la reconstruction du vieux port, mais bon, ça c'est un cas très particulier, parce que donc, le vieux port est reconstruit pour un tiers seulement de population de ce qu'il y avait avant, et c'est bon, construit en résidentiel, quoi. Bon, je connais des habitants d'avant, des vieux, hein, mais qui ont réussi à se reloger, mais très peu, hein, en majorité, c'est de notre clientèle qui arrivait là. Et on le voit bien, c'est un quartier qui est purement résidentiel. Déjà, là, on a déjà une première forme de zonage, quoi. C'est un quartier où il y avait beaucoup d'activités artisanales, commerciales, il y avait des marchés, des choses comme ça. Là, c'est plus qu'un dortoir, un quartier dortoir. Le fait est, on y va maintenant, c'est mort, quoi. Mais la grande opération, ça commence à partir de 1959, avec le plan d'urbanisme directeur de Marseille, qui sera définitivement réalisé au milieu des années 70. Alors, il faut savoir, dans le cas de Marseille, quand même, le régime de Defer, il se caractérise par une configuration politique un peu particulière. C'est-à-dire, bon, les socialistes ont le contrôle de tout ce qui est services, les services municipaux, dont notamment le logement social, etc. Et la droite libérale, tout ce qui relève de l'urbanisme. Et c'est une époque où la bourgeoisie marseillaise commence à manger la grenouille, comme on dit, où les usines commencent à fermer, où elle reconvertit en plus une grande partie de ses avoirs dans le béton. Ce qui convient bien, hein, c'est une bourgeoisie qui est restée très spéculative, même dans sa façon de faire de l'industrie, elle est restée très négociante, très spéculative. Donc l'immobilier, ça lui convient tout à fait, le BTP, un retour sur investissement assez rapide. Faible immobilisation en capital fixe, etc. Main d'œuvre peu qualifiée grâce aux nouvelles techniques avec le béton, etc. Et donc, quelque part, on reste un peu dans les traditions de la bourgeoisie marseillaise. Et ils vont appliquer en grande partie. Alors, il y a deux plans qui sont faits avant-guerre. Il y a le plan Grébert et le plan Castel. Je crois que le plan Grébert est reproduit dans mon bouquin. C'est la première fois justement qu'un tel plan est fait dans le cas de Marseille. Une loi du gouvernemental implique que chaque ville ait son plan. Alors le plan Grébert, il ne sera pas réalisé, quoi, mais ces théories, ainsi que les théories du plan Baudouin c'était l'architecte en chef du gouvernement de Vichy, qui a sa part de responsabilité dans la destruction du Vieux-Port en 1943. De tous ces plans-là, rien ne sera perdu, quoi. Et notamment, justement, il prévoit déjà tous les quartiers sud comme espace résidentiel. Il prévoit deux grandes zones industrielles, hein, qui vont en gros la Capelette, Saint-Loup, le Canet, les Égalades. Les quartiers nord sont prévus comme dortoirs pour les ouvriers. Après, il y a certaines zones qui sont conservées en zone agricole, en zone de divertissement, le centre étant considéré comme zone commerciale. Enfin, c'est déjà... Ça, c'est le plan Grébert des années 30. Et ça va inspirer quand même tout ce qui va être fait à partir de 59, quoi, dans le plan d'urbanisme directeur. Alors, en particulier, tout un mouvement de spéculation immobilière qui se développe sur le sud de Marseille, et aussi sur les quartiers Est, qui sont quand même en gros un peu les quartiers où on vote pour la municipalité en place. Quartier Sud vote plutôt pour la droite, les quartiers Est plutôt pour les socialos. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qui reste comme terrain à bâtir pour le logement social ? Il reste des terrains situés dans des endroits où personne ne veut aller bâtir. C'est-à-dire le logement social récupère vraiment délibérément la part du port, c'est-à-dire les terrains pas loin des usines, du port, et souvent des terrains assez difficilement accessibles, assez mal foutus. Il faut voir certaines cités de Marseille où à quels endroits elles ont été construites. Hein. Et ce qui fait qu'en gros, l'essentiel du logement social se concentre sur trois arrondissements dans les quartiers nord, quoi. Et donc voilà, on a tout ce mécanisme déjà de ségrégation sociale, de coupure sud-nord qui se met en place dans les institutions. C'était pas évident hein, au départ. C'était pas inscrit dans l'histoire de Marseille. Évidemment, quelque part, c'est inscrit à partir du moment où on a grandi le port au nord. On fait le choix à partir de 1840 de faire l'agrandissement du port vers la Joliette, puis à Rennes, etc., dont les usines suivent. Mais au sud aussi, on a des usines, hein, des endroits comme la Vieille Chapelle, la Pointe Rouge, Montredon, les Goudes, il y avait des usines. Hein, quand j'étais gamin, il y avait des usines de soude, de plomb, des choses comme ça. C'était des quartiers ouvriers. Hein. Des coins comme Mazars, c'était des quartiers de maraîchers, des quartiers de pêcheurs. Les pêcheurs de Sormiou, hein. Tout ça, c'était pas des quartiers spécialement bourgeois. Ce qui était vraiment bourgeois, c'était la rue Paradis, c'est Ingénier, le Rue Casse-Blanc, quoi. Mais après, ça s'est étendu. Hein. Et tout, avec en plus, vraiment, le paquet est mis sur la voirie automobile, quoi. La voirie automobile, et comme par hasard, d'ailleurs, une grande partie de l'essentiel même de la voirie automobile, enfin, des voies de circulation en site propre, quoi, des rocades autoroutières, sont réalisées dans les quartiers nord. Très peu dans les quartiers sud, rien du tout, même d'ailleurs dans les quartiers sud à l'époque. Et donc on a tout ce processus qui se met en place.
C'est pour permettre aux ouvriers d'aller travailler sur le port et de rentrer chez eux, enfin, d'avoir un accès plus facile du travail au logement.
Oui, c'est déjà aussi pour permettre le transport de la marchandise. Hein. De toute façon, c'est vraiment l'époque du tout automobile triomphant. Quoi. Quand on pense qu'entre 55 et 60, on a démantelé tous les réseaux de tramway de Marseille, à l'exception du 68 qui a disparu, mais enfin, qui devrait réapparaître, paraît-il. On a tout démantelé, tout ce réseau de tramway qui couvrait la totalité du territoire communal, parce que avec l'argument que ça ralentissait la circulation automobile. Mais ça a été dit tel quel, c'est des choses qui apparaissent aberrantes, mais... Et c'est avec cette idéologie moderniste dont il faut bien qu'on prenne la mesure de son caractère irrationnel et aberrant, quoi. De faire toute la camarilla qu'il y a autour de lui, annonçant triomphant qu'on va faire des rocades autoroutières qui vont permettre de rentrer en voiture dans le cœur de Marseille, ce qui se traduit par la destruction de pas mal de maisons vers Saint-Maurevant-la-Villette, et puis la destruction de toute la porte d'Aix, quoi, pour en faire l'arrivée de point d'arrivée de l'autoroute. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, hein, qui date du milieu des années 70. Et donc, il y a vraiment une espèce de fureur. Et ouais, je peux dire qu'à Marseille, on a vraiment mis le paquet à ce niveau-là, avec peut-être encore plus de fureur, et peut-être même un peu en avance par rapport à d'autres villes de l'Hexagone. Et évidemment, qu'est-ce que ça aboutit à créer ? Ça aboutit à créer, déjà à briser complètement toute cette vie de quartier qui existait, quoi. Même les quartiers du 19e siècle, les faubourgs ouvriers, type la Capelette, le Rouet, Mempenti, dans les quartiers Est, la Belle de Mai, la Cabucelle, Saint-Louis, Saint-Henri, tous ces quartiers qui datent de la fin du 19e siècle, quoi. Où il y avait quand même une identité très forte, une solidarité très forte entre les gens, un sentiment d'appartenance, et des codes sociaux et culturels qui fonctionnaient. Quoi. Tout ça est brutalement désintégré, les gens se retrouvent dans des cités dortoirs, quoi, des endroits qui sont prévus pour le seul repos du travailleur salarié. Quoi. Alors évidemment, pendant les 10 premières années, ça baigne, parce que bon, les gens sont quand même contents de... Moi, je l'ai vécu personnellement, hein. j'ai habité vers 80 dans un véritable taudis à la Belle de Mai, mais quand je dis un taudis, c'est vraiment le truc grave, quoi, avec des gares qui se baladaient au rez-de-chaussée la nuit, hein. Et pas d'eau chaude, tout ça, tu entendais tout ce qui se passait à côté chez les voisins. Je veux dire, après ça, j'ai été dans un appartement, dans un immeuble qui avait été construit 5-6 ans plus tôt, Ouais, j'étais content les premiers temps. J'étais très content. Eau chaude, salle de bain,
c'était
chauffage central.
C'était où l'immeuble?
L'immeuble, oh, c'était vers Bon Secours. Quoi. C'était pas ce qu'il y avait de pire. C'était pas ce qu'il y avait de pire, mais très vite, on a découvert d'autres problèmes qu'on n'avait pas à la Belle de Mai, quand on sortait la chaise sur le trottoir le soir, et où tout le monde plus ou moins se connaissait. Là, c'était déjà plus les relations entre les habitants étaient déjà plus distantes, voire même des fois peu hostiles.
Marseille, eh bien, vous le voyez, c'est bien entendu la carte postale traditionnelle, celle du Vieux-Port. Je suis en ce moment sur le balcon de la mairie. Mais Marseille, comme va nous montrer Jacqueline Collins, c'est aussi bien des problèmes et bien des projets.
Celui qui reviendrait à Marseille aujourd'hui, après quelques années d'absence, trouverait un changement frappant. Le grand port méditerranéen est sorti d'une longue torpeur pour se lancer dans de grands travaux d'aménagement. Le Vieux-Port n'est plus un obstacle à contourner. Et le quartier de la Bourse, après des excavations importantes, retardées par le souci de préserver les vestiges d'un passé prestigieux, va retrouver sa véritable vocation d'affaires grâce au futur centre méditerranéen de commerce international actuellement en construction. Curieusement, selon une récente enquête, la première préoccupation des Marseillais est l'insécurité et la violence.
Je crois que cette crainte, ou cette inquiétude, ou cette réputation de Marseille est surfaite et qu'elle date déjà de quelques années. Parce que ces derniers temps, des progrès très importants ont été faits dans la lutte contre la criminalité. Je ne vous citerai pas trop de chiffres, mais je vous dirai tout simplement que en 1976, par rapport à 1975, il y a eu 5% de moins de crimes et de délits commis à Marseille. Il y a eu 30% de moins de hold-up de commis. Naturellement, cette amélioration de la sécurité, sans qu'elle soit parfaite, ne vient pas toute seule. Et des mesures ont été prises ici à Marseille depuis un certain temps déjà. Renforcement, plan anti-hold-up, quadrillage de la ville continueront à être appliqués avec de plus en plus de sévérité. Et je pense que Marseille peut déjà maintenant se comparer à toutes les autres villes, comme je l'ai dit. Et je crois que dans quelques années, la situation y sera même meilleure.
Journal télévisé, 1977.
Dans les 10 premières années, ça a été. Mais c'est quand il y a eu une nouvelle génération de gens qui sont nés là-dedans, qui ont commencé à avoir l'âge un peu de bougeuse. Ces trucs-là, ça a été bâti pour des gens qui ont une voiture. Quand tu n'as pas de voiture, tu es coupé de tout, quoi, tu es exclu de tout. Et de là, bon, tout ce qui s'est passé après dans les années 70-80. Mais donc, et alors après, ça s'est poursuivi. Au même moment, on a commencé à bâtir tous ces centres commerciaux autour de Marseille. Hein, la Valentine, le Carrefour du Merlan, et puis pour après le Grand Littoral. Qui ont eu pour résultat d'abord de vider le centre-ville, en particulier Noailles, qui était vraiment le ventre de Marseille, et même les quartiers périphériques.
Est-ce que c'était aussi pour éviter à ces populations qui vivent dans les quartiers nord d'aller au centre-ville faire leurs courses?
Oui, je pense que oui, parce que de toute façon, par exemple, la clientèle de Grand Littoral, elle descendait en ville. Ceci dit, c'est même plus prosaïque que ça. C'est que Grand Littoral, Vigouroux voulait récupérer une partie des taxes que versaient les enseignes commerciales présentes à plan de campagne. Tout simplement. Au départ, il y a un calcul comme ça. Après, là-dessus, l'idée de désengorger, parce que c'est une espèce d'argument en bois là, qu'on a entendu, désengorger le centre-ville, il y avait aussi ça, bien sûr. Mais c'est même plus. Je veux dire, c'est des petits boutiquiers, hein. C'est vraiment des petits boutiquiers. D'ailleurs, leur idéologie moderniste se cache quand même des calculs de petits boutiquiers. Et puis le stade final, c'est la prolifération de l'habitat pavillonnaire. Alors, l'habitat pavillonnaire, c'est une vieille histoire en France. Il y a déjà, dans les années 1880, il y a déjà des projets. Mais je crois que c'est la loi Loucheur, surtout dans les années d'après la Première Guerre mondiale, qui prévoit des incitations très fortes. Il y a vraiment eu... C'est pas des phénomènes naturels, quoi. Il y a des incitations fiscales, notamment. Il y a tout un tas de choses qui incitent les gens, de toute façon. Je le vois, combien dans mon immeuble, combien de gens, depuis que je suis là, depuis une dizaine d'années qui sont partis, qui ont quitté le centre-ville pour aller dans une zone pavillonnaire. De toute façon, tant qu'on paye un loyer, autant payer, rembourser un crédit pour une maison qui tiendra plus debout quand ils auront fini de la payer, mais ça c'est autre chose. Mais il y a des incitations fiscales très fortes. Alors évidemment, en plus, l'habitat pavillonnaire, ça consomme énormément d'espace. Et ça a achevé de faire disparaître les dernières coulées vertes qu'il y avait dans Marseille. Et ce n'est pas fini, puisque là, le POS prévoit de construire sur toutes les hauts de Marseille, enfin tout ce qui est entre les quartiers nord et le plateau de la Mure, quoi. Les hauts de l'Estac, les hauts de Sainte-Marthe, tout ça. Ça va être construit en pavillonnaire. Hein. Et...
Parce qu'il y avait à Marseille des terrains agricoles évidemment importants, et il y avait quelque chose comme 4000 producteurs dans les années 70 encore.
Ah oui, énormément, mais les paysans marseillais venaient vendre la nuit au marché de la Plaine. La Plaine, c'était tout ce qui était régional, on va dire tout ce qui venait en camion, tout ce qui venait en train et en bateau, c'était vendu au cours Julien. Et c'est vrai que le transfert de la Plaine... Cours Julien aux mines en 1974, ça a accéléré la disparition des paysans marseillais, qui étaient souvent des petits producteurs et qui fonctionnaient un peu sur une logique un peu d'arrangement, de souk. Or, c'était justement ça qu'on voulait combattre, puisque les mines, c'est une structure presque militaire, je veux dire. C'est comme une usine ou une caserne. Si on entre, il faut montrer patte blanche à l'entrée. Si on ne travaille pas là, qu'on n'a pas une carte, on ne peut pas rentrer. Contrairement à l'espace ouvert qu'il y avait en plein centre-ville avant. Et donc c'est beaucoup mieux, c'est organisé beaucoup plus, de façon beaucoup plus pointilleuse, beaucoup plus serrée. Et ça a accéléré la disparition des paysans marseillais. Bon, ce qui les a accélérés aussi, après bon, toute la politique agricole des différents gouvernements. Et puis la pression foncière, le fait que ce sont les plans d'occupation des sols. Premier plan d'occupation des sols, c'est de 78, je crois, hein. Ne prévoit aucune zone agricole. Alors donc, le type n'est pas en zone agricole, par exemple, il peut avoir aucune aide financière, des choses comme ça. Bon, évidemment, ça a accéléré la disparition des paysans. Et ça a accéléré...
Qui sont partis quelque part ou qui se sont reconvertis?
Beaucoup ont pris leur retraite, beaucoup sont reconvertis. Beaucoup, comme par exemple ceux qui étaient à Bonneveine... Toutes ces zones qui étaient maraîchères jusqu'à la fin des années 70, ils sont partis vers l'étang de Berre, tu vois, vers Berre, là où il y a toute la plus grande zone, concentration de serres de l'Hexagone. Mais bon, et puis pas seulement les terrains agricoles, même les pinèdes, les garrigues qui ont petit à petit été mités par l'habitat pavillonnaire et les zones commerciales. Quoi. Alors évidemment, une zone commerciale, on le voit même en plein centre-ville, puisqu'on a le centre-bourse, cette horreur qui a été construite à l'emplacement du quartier de derrière la bourse. À 7h du soir, quand les boutiques ferment, c'est fini, c'est mort, quoi. Il n'y a aucune vie indépendante du petit commerce, quoi. Et en plus, bon, c'est fait pour les enseignes, je dis le petit commerce, mais en fait, c'est tout relatif, c'est fait pour les grandes enseignes, hein, et c'est fait aussi pour les commerces franchisés, quoi. C'est pas le petit commerce à l'ancienne comme il y avait à Noailles. Non, c'est pas du tout ce style-là. C'est une rupture complète avec les traditions méditerranéennes, hein, avec la tradition un peu du marché ouvert, de cet espace un peu interlope, où pas mal d'arrangements sont possibles, où pas mal de combinaisons sont possibles. On dit le souk, mais c'est pas spécialement... proprement d'arabe, hein. Il suffit d'aller encore dans une ville comme Naples qui a encore réussi à conserver ça, ou même à Athènes, par exemple. Et ça, c'est aussi... Il y a une combinaison entre des politiques économiques de la Ve République visant à faire disparaître tout ce qui est petit commerce, tout ce qui est artisanat, production artisanale, tout ce qui est petite exploitation agricole, et ces grosses constructions financières et urbanistiques que sont les plans d'urbanisme, puis après les POS, et qui sont des grosses opérations presque stratégiques, quoi. Et tout cet espace qui était occupé avant par des activités à taille humaine, quoi, et qui tend à disparaître, à être détruit, pour être après à la place des zones, quoi, des zones qui sont occupées par des grosses entreprises, des multinationales. Voilà, là on entend le tramway.
Il passait là, le tramway, avant ?
Ouais, mais à part qu'il passait... Enfin, moi, j'ai pas connu, hein, puisqu'il a été supprimé définitivement entre 55 et 60. Moi, je suis né en 57. Ouais. Mais il passait au milieu, par contre. Pour ce que j'ai vu sur des photos d'époque. Non, mais là, ce qui est délirant, c'est que c'est un tramway qui a pour but un but purement de prestige, quoi. Qui fait double emploi avec le métro, alors qu'inversement, des secteurs entiers de Marseille ne sont toujours pas desservis par les transports en commun. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. C'est vraiment... c'est du packaging commercial, c'est pas une politique de transport en commun, ça. Ça moque du monde, franchement. Et ajoute à ça que ce putain de chantier qui a duré 2 ans et quelques, il a fait disparaître, il a plein d'enseignes commerciales sur la Canebière. Il y a la librairie Tacucel, enfin, la bouquinerie Jette l'éponge, ils ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires. Le cinéma, l'UGC Capital en haut, pareil. Enfin, c'est un truc de... Je te demande si c'est pas... Un des buts du chantier, c'était pas ça, de faire disparaître un certain nombre d'enseignes.
Pour mettre quoi ?
Pas un commissariat comme ils ont fait en face. Ou là, la Société Générale. Maintenant, depuis que des banques en bas, là, c'était un bar. Là. Maintenant, c'est devenu une banque. Il y a plein de gens de mon immeuble là, qui allaient boire des coups dans ce bar. Et il y a 5-6 ans, là, ça a été vendu. C'est devenu une banque. Ça, c'est horrible quand même. Quand les bars laissent place à des banques, ça craint. Ça craint. À la Plaine aussi. Hein. Il y a ouais. 2 ou 3 bars qui ont disparu pour laisser place à des banques. Putain, c'est vraiment atroce. Ça, c'est vraiment c'est un truc épouvantable. Là, vraiment, tu vois, si la ville, il devrait préempter et reprendre les bars en gestion municipale. C'est un service public, un bar. Hein. C'est important. Hein. Une ville sans bar, c'est une ville sans âme. Hein.
L'urbanisme et la désintégration de la ville, c'était quand même un titre pour ce moment de radio, effectivement... assez sombre hein, quand on parle de désintégration.
Oui, là, de toute façon, moi, mon livre s'achève sur une tonalité extrêmement sombre. Hein, je ne vois pas, à moins de mentir, comment j'aurais pu faire autrement. Hein. Je ne vois vraiment pas de raison d'être optimiste. Je veux dire, les lendemains qu'on nous prépare ne vont pas être... Enfin, je veux dire, le Marseille auquel on est attaché, ce Marseille populaire et bigarré, risque de céder la place à une espèce de néo-Marseille, un peu où la ville n'est plus qu'un décor, quoi, un peu comme dans la série télévisée. Quoi. Et on voit en plus, depuis l'inauguration du TGV, hein, les gens aisés qui viennent de Lyon, de Paris, acheter des maisons, la hausse des loyers, la hausse du prix du foncier, enfin tout ce mouvement de spéculation immobilière, de construction. On voit, c'est hallucinant, je veux dire, le niveau des constructions en ville ou même dans la périphérie, qui sont toutes destinées au même type de public, quoi. C'est-à-dire, au niveau du logement social, indépendamment de tout ce qu'on peut critiquer de la politique du logement social, en tout cas... on bâtit absolument rien en logement social, on bâtit uniquement à destination de la classe moyenne aisée, quoi. De la upper middle class, comme on dit les anglo-saxons.
Une Marseille libérale.
Oui, de toute manière, Marseille était la dernière ville de l'Hexagone à passer sous le laminoir néolibéral. Hein. Et là, on est en train d'y passer. Alors, est-ce que... Parce que là, on voit quand même que déjà le périmètre euro-méditerranéen, qui est déjà assez vaste, va être doublé, puisqu'ils vont l'étendre maintenant jusqu'au Cap Pinède. Enfin, Muselier a annoncé ça, mais bon, est-ce que ça sera fait ? Il y a ces projets, bon, il y a déjà 2 projets de building. Marseille avait réussi à éviter ça, mais bon, là, on va avoir le building de la CMA-CGM. Du coup, il y a une autre société qui a un projet de building aussi à Arinques. Et du coup, Muselier, il s'est littéralement ségué sur cette histoire de skyline marseillais, de faire une ligne de gratte-ciel à la Manhattan le long du port. Et donc, ils sont déjà envisagé des projets de tours, de gratte-ciel en direction du Capitaine, c'est-à-dire à l'extrême limite de là où il y a le marché aux puces, par exemple. Alors là, c'est clair que le marché... Si ça se fait, j'en doute. Personnellement, j'en doute. Je pense que ça va excéder réellement les capacités... de remplissage, ne serait-ce. Mais si ça se fait, c'est la s'ils vont jusqu'au bout, s'ils étendent le périmètre romade et avec les projets que Muselier a claironnés, c'est clair et net que le marché aux puces de, enfin, le marché de Saint-Louis, il va disparaître là. Là, il va gicler, ça fait pas l'ombre d'un doute. Déjà que dans les années 90, il y avait un élu de la municipalité Vigrou qui avait proposé de le déplacer sur, au bord de l'étang de Berre. C'est quand même quelque chose, ça. Un marché aux puces que moi j'ai connu, qui occupait le quartier Saint-Lazare, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années. Il y a de la part de beaucoup de Marseillais un refus de la ville, quoi. Ils ont jeté l'éponge à ce niveau-là. Je crois que la culture citadine s'est en grande partie perdue. Je l'ai vu, moi, au niveau de tout ce qu'on a pu faire dans le quartier de la Plaine, pour développer une occupation de l'espace public, renouer un peu des liens entre les habitants et les gens qui passent dans le quartier. On se rend compte, on est confronté à ça. Cette réalité centrifuge le quartier, n'offre plus, c'est plus les quartiers de l'époque dont on parlait. Le quartier devient tant à n'être de plus en plus qu'un dortoir et une espèce de lieu neutre où se croisent un peu des trajectoires contradictoires et indifférentes les unes aux autres. L'image de la ville, le spectacle de la ville remplace la chose même, la pratique même. On n'a plus des citadins, on a des consommateurs, des automobilistes, des gens comme ça.
Et comme c'est la même chose dans les autres villes méditerranéennes, en Italie ou en Espagne, etc., Marseille continue à être finalement assez voisine de des autres villes.
Voilà, c'est très différent parce que, bon, je connais bien le cas de Barcelone. C'est vrai qu'à Barcelone, il y a eu des politiques très lourdes de destruction des quartiers populaires du centre ces dernières années. On avait d'ailleurs organisé une rencontre là, avec des comités d'habitants qui luttaient contre ça. À Barcelone, il y a plus de répondants qu'à Marseille quand même. Mais Barcelone, c'est une métropole capitaliste, donc les gens, la bourgeoisie catalane, refait la ville à son image, quoi. En plus, une ville faite pour les touristes, clairement, et tout est fait pour les touristes à Barcelone, tout, absolument tout. Naples, c'est très différent, par exemple. Moi, j'y étais encore, là, j'y ai passé encore un mois. Non, Naples, déjà, Naples, c'est pas l'Europe, quoi, déjà. On est déjà dans le tiers-monde, avec des pratiques de... des pratiques sociales et culturelles qui ne sont pas celles de l'Europe occidentale. Et Naples, c'est un gros morceau. Je ne pense pas qu'ils l'avaleront. C'est autre chose. Après Naples, il y a d'autres problèmes. La Camorre, la corruption de la classe politique, etc. L'urbanisation anarchique, des choses comme ça.
Marseille ne ressemble plus à Naples. De moins en moins.
Non, mais Marseille... Oui, cette ressemblance de Marseille avec Naples. Bon, déjà, on a détruit la plupart des vieux quartiers qui avaient effectivement un petit côté napolitain. Hein. Mais non, il y a une chose qui différencie fondamentalement Naples de Marseille, c'est que Naples a été une capitale. Marseille est une capitale manquée. Et donc Naples a quand même toujours, même si depuis la conquête du Sud par les troupes piémontaises en 1860, Naples a été cassée en tant que capitale, y compris quand même capital politique, mais aussi comme capital, on va dire, économique. Mais elle a quand même gardé son rôle de capital culturel, quoi. Naples, c'est, elle produit elle-même son univers culturel. Elle ne doit rien à personne, quoi. Elle ne doit rien à Rome, elle ne doit rien à Milan, alors que Marseille, on est en pleine colonisation. Hein. Mais bon, ça, on en parlera dans une émission à venir.
C'était Alessie Dell'Umbria, l'auteur de l'Histoire universelle de Marseille, de l'an 1000 à l'an 2000, sorti aux éditions Agone. Demain, Alessie continue de nous raconter la ville. Le rendez-vous sera à la même heure, à 10h, autour de Marseille et les échanges maritimes à l'ère de la mondialisation. À demain. Thank you.
FLM kohe Dorma mundo kona Benze vele koko ina he Amude Ay tepe londona Ay tepe londo he Ay tepe londo ko ina he Bende vele kohe Dorma mundo kona Bende vele kohe ina he Amude Poi mon bre. Ye fe comme le dit. Poche me yet. Poche me yet. Ye fe comme le dit. Ay, te perdón de na, 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 na. Ay, te perdón de coina.